Les Rois Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui, au sommaire ce soir. Colère à Niamey après le classement du Niger en zone rouge par Paris. Manifestation au Cameroun contre les violences en zone anglophone. Réunion des pays d'Afrique australe, la SADC exprime un timide soutien au Mozambique. Début de la convention démocrate virtuelle pour la première fois, Joe Biden doit officiellement annoncer jeudi sa candidature à la présidence. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Paris a placé l'ensemble du Niger en zone rouge, à l'exception de la capitale Niamey, soit formellement déconseillé à la suite de l'assassinat de 8 personnes, dont 6 humanitaires français. Ce classement a déchaîné la colère et l'indignation de beaucoup de Nigériens. Le point avec Nanit Talani.
Le Niger en rouge. Tout Nigérien soucieux de la dignité de ce pays s'est senti humilié dans sa chair, martèle Alaye Taïrou, un agent de l'État. Amadou Hassan Boubacar, enseignant à l'université de Niamey, dénonce une sanction de Paris contre l'ensemble des Nigériens, ajoutant que c'est totalement arbitraire et à la limite du mépris à l'endroit du peuple nigérien. C'est une décision injuste qui décourage tous les efforts fournis depuis plus de 5 ans, s'est insurgé un éditorial, Télé Sahel, la télévision nationale. La puissante Confédération générale des syndicats libres du Niger fustige l'attitude précipitée, provocante et irrespectueuse de la France. Les protestations ont continué sur les réseaux sociaux où une carte du Niger est largement partagée avec la mention « Je suis un pays de paix et d'hospitalité, je suis le Niger ».
Toujours au Niger, 11 villageois, dont 4 enfants, ont été libérés au cours d'une opération menée par l'armée dans le bassin du lac Tchad. Ces 11 personnes avaient été enlevées les 11 et 12 août dans 2 villages de la commune de Guesquerou, bordant le lac Tchad, dont les rives sont partagées entre le Niger, le Tchad et le Nigeria. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo veut rouvrir les aéroports du pays au 1er septembre. Il a dit espérer que le pays sera prêt d'ici là pour assouplir les règles contre la propagation du coronavirus. En mars, le Ghana a fermé ses frontières terrestres et aériennes, ainsi que les écoles et interdit les rassemblements publics. Le Ghana a recensé 42 653 cas de coronavirus, dont 239 décès. Le 40e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement d'Afrique australe, ou SADC, s'est tenu ce lundi avec en toile de fond la présence djihadiste dans le nord du Mozambique et l'intégration économique. Plus de détails avec Arzuma Compaoré.
C'est le Mozambique qui a accueilli ce 40e sommet de la SADC virtuel pour la première fois de son histoire. La quinzaine de chefs d'État et de gouvernement ont échangé sur le développement, mais aussi sur les actes de terrorisme et les attaques armées dans la sous-région. La SADC a exprimé sa solidarité et son engagement à soutenir le Mozambique dans son combat contre le terrorisme, sans fournir de précisions sur comment l'aider à faire face aux attaques djihadistes meurtrières dans le nord du pays. Le Tanzanien John Magufuli a qualifié la pandémie de coronavirus de défi majeur et demandé à la région de travailler ensemble pour le relever. Le Mozambicain Felipe Jacinto Nyusi a pris la présidence rotative de la SADC et le prochain sommet est prévu au Malawi en août 2021.
Au Soudan, quelques 3000 personnes ont défilé dans les rues de Khartoum, la capitale aujourd'hui, réclamant notamment plus de justice et de paix. Les manifestants se disent déçus de la situation du pays un an après la signature de l'accord de transition entre l'armée soudanaise et les contestataires après la chute du président Omar el-Béchir. Le département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre 4 Ougandais pour leur implication dans une fraude à l'adoption. 2 juges et un avocat ont participé à un programme qui promettait une éducation spéciale et des études aux États-Unis pour des enfants de familles ougandaises. Ces enfants étaient ensuite proposés pour une adoption à des familles américaines. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, en déplacement à Tripoli, a mis en garde contre le calme trompeur qui règne en Libye. Nous faisons le point avec Yacouba Ouedraogo.
Nous constatons actuellement un calme trompeur en Libye, a déclaré Eiko Maas aux côtés de son homologue libyen, Mohamed Taha Siala. D'après le ministre allemand des Affaires étrangères, les deux parties et leurs alliés étrangers continuent d'envoyer des armes dans le pays et campent sur leur position. Le gouvernement d'union nationale appuyé par la Turquie a réussi à repousser une offensive du maréchal Khalifa Haftar lancée en avril 2019 contre Tripoli. Après 14 mois de combats meurtriers, les pro-Haftar se sont retirés vers Sirte. La bataille s'organise désormais autour de cette ville à mi-chemin entre Tripoli et Benghazi à l'est. Avec le premier ministre Faez al-Sarraj et le ministre de l'Intérieur Fatih Bachaga, M. Maas dit avoir évoqué la possibilité de créer une zone démilitarisée autour de Sirte. Après Tripoli, le chef de la diplomatie allemande se rendra aux Émirats qui, selon lui, ont une influence sur le général Haftar. Selon des médias turcs, le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, est aussi en visite à Tripoli ce lundi.
Le Japon a annoncé lundi l'envoi imminent d'une nouvelle équipe d'experts sur l'île Maurice pour participer aux efforts de dépollution. Un millier de tonnes de fioul s'étant écoulé d'un bateau japonais échoué sur un récif depuis fin juillet. Le gouvernement mauricien a exprimé son intention de réclamer des compensations pour les dégâts commis par la marée noire. Tokyo avait déjà dépêché une première équipe de 6 experts pour contribuer aux efforts en vue de contenir la pollution.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, lancement ce lundi de la Convention démocrate, l'événement virtuel inédit pour lancer officiellement la candidature de Joe Biden, a aussi pour objectif d'essayer d'unir progressistes et modérés avant la présidentielle de novembre. Abdourahman Dia.
La ville de Milwaukee, dans le Wisconsin, devait accueillir des milliers de délégués toute cette semaine. Mais dans une décision sans précédent, les démocrates ont annoncé début août qu'à cause de l'aggravation de la pandémie, aucun intervenant ne viendrait parler en personne à la convention. Dans cette ville en bord du lac Michigan, le Wisconsin Center ne devrait donc accueillir qu'une activité très réduite. Par conséquent, l'ambiance traditionnelle de ces grands messes politiques qui marquent tous les 4 ans le coup d'envoi officiel de la campagne ne sera pas au rendez-vous. Jeudi, au jour de clôture de la convention, le candidat présumé des démocrates Joe Biden parlera de sa vision pour rassembler l'Amérique afin de faire sortir le pays du chaos constant et de la crise, ont annoncé les démocrates. Il s'exprimera par visioconférence depuis l'État de Delaware où il réside. Le même jour, le président Donald Trump organisera un meeting à Scranton, la ville de naissance de son rival Joe Biden, avant d'accepter sa nomination lors de la convention républicaine prévue la semaine prochaine.
Washington a durci le ton aujourd'hui face aux géants chinois des technologies Huawei, qualifiés d'espions par Donald Trump en étendant les sanctions existantes à ses filiales internationales dans un contexte de relations dégradées entre les deux pays. Les États-Unis ont interdit 38 filiales de Huawei pour limiter leur accès aux technologies américaines. Le coronavirus a fait 21,7 millions de contaminations et plus de 770 000 morts dans le monde. Les États-Unis ont dépassé le seuil des 170 000 décès devant le Brésil, le Mexique et l'Inde. En Europe, l'Italie tente d'enrayer un rebond de la pandémie, inquiet des contaminations en hausse parmi les jeunes. Le ministre de la Santé, Roberto Speranza, a indiqué qu'il fera les sacrifices nécessaires pour assurer la rentrée scolaire mi-septembre. Le Liban connaît une hausse des infections et les hôpitaux de Beyrouth sont presque saturés. En Corée du Sud, des milliers de membres d'une église protestante de Séoul ont été placés en quarantaine après l'apparition de foyers de contamination. Au Bélarus, des employés de plusieurs usines et de la télévision publique ont arrêté le travail après la manifestation historique hier qui a réuni des dizaines de milliers de personnes à Minsk. La pression monte depuis l'élection présidentielle du 9 août qui a vu la réélection d'Alexandre Loukachenko avec 80% des votes malgré de nombreuses accusations de fraude. Le président Trump a indiqué suivre de très près la situation au Bélarus. En Afghanistan, le processus de paix entre le gouvernement et les talibans semble dans l'impasse, alors que plusieurs pays s'opposent à la libération de certains prisonniers, ce qui retarde l'ouverture de pourparlers entre les deux camps. Le début des négociations de paix était attendu dans les jours à venir, après qu'une Loya Jirga, une grande assemblée de dignitaires, s'est prononcée le 9 août pour la libération de 400 prisonniers talibans accusés de crimes graves. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec John Lyndon.
Sera finalement à partir du 1er janvier 2021, l'Union africaine veut multiplier les discussions et négociations en ligne alors que l'ouverture des frontières reste encore timide. La zone de libre-échange continentale africaine devrait éliminer les tarifs douaniers entre 55 pays africains. Le continent, avec 1,3 milliard d'habitants, veut créer le plus grand bloc commercial au monde. L'économie marocaine va subir une récession de moins 5,8%, la pire depuis 20 ans, d'après le système des Nations Unies au Maroc et la Banque mondiale. Si au premier trimestre, la mauvaise conjoncture a été plus ou moins maintenue, au deuxième trimestre, le plongeon a été de 13,8% sous l'effet du confinement. La consommation des ménages s'est repliée de 6,7%, la demande extérieure de 25% et les importations de 26%. La valorisation de Apple a fortement augmenté, dépassant le cap des 1 800 milliards de dollars. C'est l'équivalent des PIB des 10 premières économies africaines selon la Banque mondiale. Les capitalisations boursières des entreprises cotées dans les 23 bourses des valeurs mobilières du continent font environ 1 500 milliards de dollars, soit beaucoup moins que Apple.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le FC Séville connaîtra ce soir son adversaire pour la finale de la Ligue Europa. Ce sera entre l'Inter Milan et le Shakhtar Donetsk qui s'affrontent ce soir en demi-finale. Hier, les Espagnols se sont qualifiés pour leur quatrième finale de la compétition en 7 ans, en renversant Manchester United 2 buts à 1 à Cologne. Le gardien marocain de Séville, Yacine Bono, a presque justifié à lui tout seul pourquoi son équipe n'avait plus encaissé de but depuis 5 matchs. Avant cette rencontre, il a multiplié les arrêts décisifs pour mettre son club à l'abri d'une éventuelle égalisation. Et puis, le défenseur international belge Vincent Kompany, 34 ans, met un terme à sa carrière de joueur pour devenir entraîneur d'Anderlecht en remplacement de Franky Vercauteren. Formé dans le club bruxellois le plus titré de Belgique, Kompany y était revenu en provenance de Manchester City en 2019 avec la double casquette de joueur et manager. Vercauteren était de son côté l'entraîneur principal du RSC Anderlecht depuis octobre dernier. Au Sénégal, le sport est complètement à l'arrêt avec les mesures restrictives imposées à cause du coronavirus. Les arts martiaux sont un des secteurs les plus impactés avec des camps de vacances annulés, des parents désorientés et des athlètes sans compétition. De Dakar, la correspondance de Seydina Abagui.
Exercice physique improvisé, maintien musculaire à domicile, les pratiquants des arts martiaux font de leur mieux pour pallier le manque de compétition. Une situation très difficile pour les athlètes, comme l'indique Sophie Mbaye, capitaine de l'association sportive des forces armées du Sénégal.
On aurait dû avoir l'occasion d'organiser les choses, de faire les distanciations, de porter les masques et tout, mais on nous a carrément interdit de les regroupements et tout, donc on est obligé de tout annuler.
Cet arrêt est ressenti de plein fouet par les promoteurs des sports de combat qui sont avant tout des soutiens de famille. Sensei Mohamed Lamine Baye, directeur technique de Timing Karate Club et organisateur d'un des plus grands camps de vacances, regrette l'absence d'accompagnement du gouvernement.
On tirait nos ressources dans les dojos, maintenant ce n'est plus possible. On a fermé ces endroits et les élèves sont confinés à la maison. Il n'y a pas d'aide des gouvernants sur nous, les maîtres de sport. Il n'y a même pas d'aide de la part des fédérations alors que ça ne devait pas se passer comme ça.
L'arrêt des activités entreprises sportives déteignent aussi sur les parents qui profitaient des camps de sport pour placer leurs enfants dans des espaces sécurisés durant toute la durée des vacances. Sambosi, qui a deux enfants qui pratiquent les arts martiaux, se désole de la situation, mais avoue qu'il en profite pour apprendre de ses enfants.
Tout dépend de l'approche. Par exemple, je les laisse regarder des vidéos sur YouTube des katas, partager parce qu'ils ont beaucoup à m'apprendre.
À Dakar, Céline Ababi pour VOA Afrique.
Merci Yakuba. Vous êtes toujours à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg avec vous. Place au dossier du jour. Au Burkina Faso, le grand imam de Djibo, Souaïdou Cissé, enlevé le mardi 11 août par des hommes armés non identifiés, a été retrouvé mort samedi. Il avait été soustrait du véhicule qui le ramenait de Ouagadougou à Djibo. Son corps a été découvert samedi dans le village de Tiléré à 4 km de Djibo. Selon ses proches, les gendarmes qui assuraient la sécurité du patriarche de 73 ans ont décampé sans donner d'explication en février dernier. Bagassi Koura a joint Daouda Diallo, secrétaire général du collectif de lutte contre l'impunité et la stigmatisation au Burkina Faso.
Cet imam-là, c'est un grand homme religieux, un chef religieux très bien respecté, très bien sollicité, et qui également a refusé de quitter la localité de Djibo malgré les menaces multiples qui planaient sur lui. Menaces terroristes, l'insécurité et tout. Il a refusé de quitter les lieux. Donc, en réalité, il faut voir en lui un symbole de résistance pour vraiment étudier l'occupation des territoires par l'ennemi.
Qui le menaçait et pourquoi?
Il était menacé sérieusement par les terroristes parce que qui estimait que sa tendance, son idéologie religieuse ne convenait pas à leur pratique salafiste qu'ils sont en train de passer sur le terrain. Voilà, donc, en quelque sorte, c'était un ennemi à abattre sans ses gens. Il a été même attaqué chez lui une fois, on ne sait pas par quelle acrobatie il a pu vraiment avoir la vie sauve. Il avait été déjà attaqué par l'ennemi de par le passé.
On disait qu'il avait une protection, une sécurité. L'État avait détaché des gendarmes à son domicile pour le protéger.
Oui. Je pense qu'avec l'autorité avait pris en compte la mesure des menaces qui planaient sur lui, parce que c'est quelqu'un qui n'avait jamais accepté de se mettre à dos l'autorité de l'État, qui n'avait jamais accepté de collaborer avec l'ennemi. Donc l'autorité s'était assumée en lui en mettant à disposition des éléments de code d'état de sécurité qui veillent à sa sécurité. Nous qui malheureusement ont levé la garde, ont suspendu cette protection, bon, sans donner une raison valable. Donc ce qui fait aujourd'hui planer le doute sur, dans tous les sens.
Alors le gouvernement a dit qu'il a mobilisé toutes ses forces pour retrouver les assaillants, ceux qui l'ont abattu notamment. Est-ce que vous croyez en cela?
Nous estimons que le gouvernement, on peut dire, nous souhaitons que le gouvernement réussisse à entreprendre comme action sur le terrain pour garantir la sécurité des populations, mais nous doutons pas. Vraiment, parce que depuis un certain nombre d'années maintenant, là, du Consul, même s'il y a une portion de 30 km, c'est devenu une portion non contrôlée par les autorités étatiques. Voilà ce qui met en danger tous les Burkinabés, tous les citoyens qui passent par là. Donc, nous estimons qu'aujourd'hui, il faut que les autorités de l'État aussi s'assument pleinement.
Daouda Diallo est le secrétaire général du CISC. Il était joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Dans la région anglophone du sud-ouest du Cameroun, des centaines de personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont défilé en silence dans les rues de Mouyouka hier dimanche pour protester contre les brutalités et meurtres de civils commis par l'armée et les séparatistes. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka, relaté par Nathalie Barge.
Ernestine Naya, l'une des organisatrices de la marche, a déclaré à VOA Afrique que le mouvement des femmes pour la paix au Cameroun et quatre autres organisations en ont assez de la violence croissante dans les régions anglophones du Cameroun.
Je suis ici aujourd'hui pour dire non à la violence, pour dénoncer les meurtres de civils innocents et en particulier de femmes. Notre cri aujourd'hui est que les dirigeants de la nation agissent contre la crise dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. Nous méritons tous de vivre en paix sur cette terre glorieuse que Dieu nous a donnée.
Le 11 août, Comfort Tumasang, une mère de deux enfants, a été brutalement assassinée à Muyuka. Une vidéo de sa décapitation a circulé sur les réseaux sociaux, provoquant une condamnation générale. La mère de la victime, Marie Tumasang, affirme que les séparatistes ont accusé sa fille de collaborer avec l'armée en tant qu'informatrice. Elle dit manifester pour que les assassins de sa fille soient arrêtés et pour que la paix revienne au Cameroun.
Lorsque les séparatistes sont venus dans la maison, ma fille, effrayée, a immédiatement remis son téléphone aux combattants, comme il l'exigeait. 30 minutes plus tard, il m'a fallu regarder, impuissante, Comfort, qui était forcée de quitter la maison pour se rendre dans le quartier Sand-Sand. Là, les combattants l'ont attachée à un arbre, mais les habitants ont sonné l'alarme et les combattants se sont enfuis, emmenant ma fille avec eux.
Comfort Tumasang a ensuite été retrouvée morte. 13 autres meurtres d'une grande brutalité ont été signalés dans les deux régions anglophones du Cameroun. Emmanuel Ngamba Ledoux, administrateur principal de la division FACO de Muyuka, a dit que l'armée a été déployée et que les soldats ont reçu pour instruction d'arrêter les assassins de Madame Tumasang.
Ces criminels vont être poursuivis et des actions ont été entreprises pour s'assurer qu'ils soient retrouvés. J'ai adressé le message de condoléances du chef de l'État, Paul Biya, à la famille endeuillée de feu Madame Tumasang, qui a été brutalement assassinée par des criminels.
Les séparatistes disent que l'armée organise ses attaques contre des civils pour donner une mauvaise réputation aux combattants. De son côté, l'armée affirme que les séparatistes ont recours à des attaques contre les civils car leur marge de manœuvre a été considérablement réduite par les troupes gouvernementales. Selon l'ONU, la crise dans les régions anglophones du Cameroun a fait plus de 3000 morts et au moins 500 000 déplacés en 4 ans.
Le candidat démocrate Joe Biden va officialiser sa candidature à la présidence cette semaine pendant la convention nationale du Parti démocrate qui a commencé ce lundi. Biden a nommé la sénatrice Kamala Harris de Californie comme colistière. Elle est la première femme noire et la première personne d'origine indienne à figurer sur un ticket présidentiel ici aux États-Unis. Aspect inédit cette année, la convention démocrate sera pratiquement virtuelle à cause de la pandémie du Covid-19. Arash Arasdassadi de la VOA fait le point. Le récit est de John Linden.
L'ancien vice-président Joe Biden et la sénatrice Kamala Harris ont fait leur première apparition conjointe à Wilmington dans le Delaware la semaine dernière. Ceci après la décision historique de la nommer comme sa colistière pour tenter de battre le président Donald Trump aux élections de novembre prochain. Le Parti démocrate a choisi Milwaukee dans le Wisconsin pour accueillir sa grande messe. La pandémie du COVID-19 a fait de cet événement une nomination en ligne. Tous les poids lourds du Parti démocrate seront virtuellement présents. L'ancien président Barack Obama, Hillary Clinton, ancienne candidate à la Maison-Blanche, et Alexandria Ocasio-Cortez, qui en est à son premier mandat de représentante de New York au Congrès, seront tous de la partie. Pour Bernie Sanders, ancien candidat à la présidence et sénateur indépendant, Kamala Harris renforce le ticket présidentiel des démocrates.
Je crois que Kamala, en tant que personne que je connais depuis plusieurs années, est incroyablement intelligente, incroyablement dure et je n'aimerais pas être à la place du vice-président Pence dans un débat avec elle. Je pense qu'elle est un atout pour la campagne Biden. Je pense qu'elle réussira très bien pendant cette campagne électorale.
Le président Donald Trump n'est pas de cet avis. Lors d'une récente conférence de presse à Washington, il a déclaré avoir entendu des arguments remettant en cause l'éligibilité de Harris.
I heard it today. J'ai entendu dire aujourd'hui qu'elle ne remplissait pas les conditions. Et en fait, l'avocat qui a écrit cet article est très qualifié et très talentueux.
Kamala Harris est née à Oakland, en Californie. Les critiques ont comparé les remarques de Trump à ses anciennes allégations sur la citoyenneté de l'ancien président Barack Obama. Jason Miller, principal conseiller de la campagne Trump, reproche aux médias d'en remettre une couche sur cette question de l'éligibilité de Harris.
Ce n'est pas quelque chose dont nous parlons dans notre campagne. Le président a dit que ce n'est pas quelque chose que nous creusons. Ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Et à notre avis, c'est une affaire close, fin de l'histoire. Et les seuls qui continuent à en parler sont les médias.
Une chose est sûre, la Convention nationale démocrate se tient du 17 au 20 août. Joe Biden va officiellement accepter la nomination de son parti dans la course à la présidence. Donald Trump acceptera celle de son parti à la Convention nationale républicaine qui débutera le 24 août.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Un grand merci à Michel Joseph et Georges Léonard Sagnot qui ont permis la réalisation de ce journal. Au micro Clermont-Rhin Gibourg, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Cela fait presque 50 ans que les États-Unis ont entamé un dialogue ayant conduit à l'établissement des relations avec la Chine. Nous imaginions que l'engagement avec la Chine produirait un avenir avec des brillantes promesses de reconnaissance mutuelle et de coopération, a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo. Ces promesses se sont avérées fausses. Au fil des décennies, la prospérité accrue n'a pas conduit à un renforcement des libertés en Chine ou réduit la menace chinoise à l'extérieur. Le Parti communiste chinois a abusé des droits humains du peuple chinois. Il a revendiqué des territoires de plus en plus vastes en mer de Chine méridionale. Il a cherché à intimider les amis de Taïwan et écraser le peuple amoureux de la paix de Hong Kong. Il a rendu moins sûres les voies de navigation dans le monde. Et en contrepartie de l'autorisation à opérer en Chine, le Parti communiste chinois a insisté pour que les compagnies occidentales transfèrent leurs technologies à leurs rivales chinoises et demeurent silencieuses face aux horribles violations des droits humains. Alors que les États-Unis ont ouvert les bras aux citoyens chinois, a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo, le Parti communiste chinois a envoyé des propagandistes et des espions aux conférences de presse, centres de recherche et universités des États-Unis. Il a dérobé notre précieuse propriété intellectuelle et nos secrets commerciaux, causant la perte des millions d'emplois à travers l'Amérique. Le Parti communiste chinois doit changer, a-t-il déclaré. Il doit commencer à embrasser les objectifs de justice et de réciprocité fixés par le président Trump. Nous devons aussi discuter avec le peuple chinois et l'autonomiser. C'est un peuple dynamique, amoureux de la liberté et distinct du Parti communiste chinois. Pendant trop de décennies, nos leaders ont ignoré et minimisé les propos des courageux dissidents chinois qui nous ont avertis au sujet de la nature du régime auquel nous faisons face et nous ne pouvons plus continuer à l'ignorer. Amener le Parti communiste chinois à changer de comportement n'est plus uniquement la mission du peuple chinois, a déclaré le secrétaire d'État Pompeo. Les nations libres doivent œuvrer pour défendre la liberté. J'en appelle à chaque leader de chaque nation à commencer par faire ce que l'Amérique a déjà fait. Tout simplement, insister sur la réciprocité, insister sur la transparence et l'imputabilité du Parti communiste chinois. Pendant longtemps, nous avons laissé le Parti communiste chinois fixer les termes des discussions, mais ce n'est plus le cas. Les nations libres doivent donner le ton. Nous devons opérer sur la base des mêmes principes. Si nous n'agissons pas maintenant, a dit le secrétaire d'État Pompeo, le Parti communiste chinois va éroder en fin de compte nos libertés et va subvertir l'ordre basé sur les règles que nos sociétés ont travaillé dur pour édifier. Sécuriser nos libertés vis-à-vis du Parti communiste chinois est la mission de notre vie.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.